Ce matin, nous sommes toujours dans notre thématique au niveau des prédications des portraits de disciples. Et aujourd'hui, nous allons regarder un disciple vraiment pas comme les autres. Un disciple, c'est Thomas. Thomas est un disciple, je le qualifierais de flou. Parce que Thomas est ambivalent. Il est, on peut voir comme quelqu'un qui est un disciple courageux et qui a de la foi, ou comme Thomas, l'incrédule. L'histoire catholique et même les gens retiennent souvent plus cette phase de Thomas. Thomas, le père des incrédules. Thomas, celui qui a douté. Et de Thomas, il y a même une expression qui est née. Cette expression qui dit « je ne vois, je ne crois que ce que je vois ». Une expression qui est biblique à la base, puisqu'elle reprend ce que Thomas fait. Mais est-ce qu'on connaît bien Thomas? C'est la grande question que je veux nous poser. Est-ce qu'on le connaît? Puisque ce passage nous montre un trait, une situation de Thomas. Mais ce matin, je vous invite à déposer tous vos préjugés sur Thomas, sur ce que vous pouviez savoir de lui, ou l'impression de connaître de Thomas, et qu'ensemble on puisse s'arrêter et regarder qui était ce disciple, cet apôtre qui a suivi Jésus et qui nous donne, nous enseigne certaines choses de la foi. Alors, pour situer Thomas, Thomas apparaît dans tous les évangiles, dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Il est dans les listes des 12 apôtres. Il est plus mis en avant dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, il apparaît 3 fois. Dans les 3 fois, il a un discours, une situation où Thomas est mis en avant, où Jean le met en avant. Et c'est la première fois où on voit Thomas, c'est dans Jean 11, c'est le verset 16, Jean 11, verset 16. Si je vous situe un peu l'histoire, il y a un ami de Jésus qui est malade et qui va mourir, qui s'appelle Lazare. Et Jésus a l'information qu'il n'est pas bien, qu'il va pas bien, et il décide d'aller voir Lazare. Mais au verset Jean 11, verset 8, lorsque Jésus dit à ses disciples « Allons voir Lazare », ses disciples vont dire quelque chose. Donc Jean 11, verset 8, les disciples lui dirent « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » C'est une interpellation que les disciples ont face à Jésus. Donc le verset veut simplement dire que oui, là où Lazare est, malade, en train de mourir, les Juifs veulent tuer Jésus. Et ses disciples, en fait, ils ont peur. Ils sont dans un temps de doute, troublé, parce que Jésus veut quand même aller dans un endroit où potentiellement il y a des grands risques de mourir. Donc voilà, à la place des disciples, je peux bien comprendre qu'ils y mettent quelques doutes ou quelques questionnements. Au verset 16, c'est la première fois que Thomas va dire quelque chose et il dira, Jean 11, verset 16, sur quoi Thomas, appelé Didymie, dit aux disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Voilà, ça c'est la première parole que Thomas a dit et qui nous est rapportée dans l'évangile de Jean. Alors, deux remarques tout de suite par rapport à ça. On voit peut-être que Thomas, c'est un disciple fervent, aimant Jésus, qui veut suivre Jésus et qui, quelque part, on pourrait comprendre qu'il n'a pas peur de mourir, ou qui est prêt à mourir et à subir ce que Jésus veut subir ou va subir, selon lui. La deuxième chose qu'on peut voir sur la réponse de Thomas, c'est que Thomas ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Comme un peu tous les disciples, ils sont un petit peu largués, ils ne comprennent pas tout ce que Jésus va faire et le sens que Jésus met aux actes. Mais on voit une ferveur, une envie de suivre Jésus qui va même aller lui dire, mais allons. Et Thomas s'adresse aux autres disciples. Il encourage les disciples à ne pas avoir peur ou à se dire, allez, on y va. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois ce texte. Et ça présente un Thomas qui est quelque part courageux, qui veut suivre et qui aime Jésus. Première chose qu'on peut apprendre et qu'on voit sur Thomas. Le deuxième passage où on voit Thomas, c'est dans Jean 14. C'est Jean 14, versets 1 à 7. C'est lors de la scène. Jésus annonce à ses disciples qu'on va le livrer, qu'il va mourir. De nouveau, on se retrouve dans une situation de trouble. De nouveau, on se retrouve dans une situation où les disciples ont peur, doutent. Et Jean 14, verset 1, Jésus va leur dire « Que vos cœurs ne se troublent pas, ayez foi en moi, croyez en moi. » Et Jésus va leur parler, va leur dire « Mais je dois retourner dans la maison de mon Père, je préparerai une place pour vous, je viendrai vous rechercher. » Et il va terminer en disant « Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. » Et à cette phrase que Jésus dit, Thomas va se laisser interpeller. Et au verset 5, Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» Et grâce à cette question de Thomas, on a cette fameuse réponse connue, peu connue, mais assez de Jésus, qui dit « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père, et maintenant, déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. » C'est grâce à cette question que Jésus nous donne ce chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est à Thomas qu'on la doit, quelque part, cette réponse. De nouveau, ce passage, qu'est-ce que nous dit ce passage de Thomas? Il est fervent, il cherche à suivre Jésus, il veut comprendre le chemin qu'il faut emprunter, il est consciencieux, il est très pratique, parce que finalement, Jésus parle d'un chemin, il dit « Ok, mais quel chemin ?» Et de nouveau, il a un cœur fervent à suivre Jésus. Il voit Jésus, il l'a suivi pendant ces années et il veut continuer à le suivre. Malgré ce temps turbulent, malgré que le doute s'est emparé du cœur des disciples pendant la Sainte Cène, Thomas veut suivre Jésus. Alors, comme dans le premier passage, on voit un Thomas qui ne comprend pas forcément tout. Il y a des mystères qui ne sont pas encore accessibles à eux, puisqu'ils n'ont pas encore toute la révélation, ils n'ont pas encore cet esprit qui descend et qui les éclaire, et ils n'ont pas encore vu justement ce Jésus ressuscité. Ce qui m'amène à mon troisième passage, où on voit Thomas. Et ce passage où on voit Thomas, c'est Jean 20, versets 24 à 29. Et là, c'est un passage qui se passe après la résurrection de Jésus. On a les disciples qui sont allés, les femmes qui sont allées au tombeau, qui n'ont pas vu le corps. Dans Jean, c'est Pierre et l'apôtre aimé, oui, c'est ça, qui vont courir jusqu'au tombeau pour voir que le corps n'est plus là. Et dans tout le chapitre 20, ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'il y a deux notions qui restent là, et qui sont en constante tension l'un avec l'autre, c'est cette idée de voir. Les disciples ont vu le tombeau vide, ils voient en fait, c'est cette tension entre voir et croire. Ou pour Thomas, ou pour Jean, c'est pas forcément évident que lorsqu'on a vu, on croit, ou bien au contraire, en fait, il veut montrer que lorsqu'on voit, on peut croire. Et il y aura, à la fin du chapitre 20, le point culminant de cette tension entre voir et croire. Mais revenons à Thomas. Donc Thomas, au chapitre 20, à un moment donné, les disciples sont enfermés dans une maison. Ils ont peur. Ils ont peur de subir ce que Jésus a subi. Ils sont enfermés, ils ont peur. Par contre, Thomas n'est pas là. On ne sait pas où il est. Est-ce que lui n'a pas peur? Je ne sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Thomas n'est pas là. Jésus apparaît. Et quand Jésus apparaît, il montre à ses disciples les cicatrices, il lui montre son côté, il montre ça aux disciples sans que Thomas soit là. Et au verset 24, Thomas est introduit dans l'histoire, et je vous lis le verset 24 à 29. L'un des douze, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici. Voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux celui qui croit sans avoir vu. » Voilà le passage le plus connu de Thomas, où il doute. Et ce qui est assez intéressant, on peut voir, c'est que la grande question que je me suis posée au début, c'est Thomas doute de Jésus ou il doute des disciples ? Il doute, pour moi, il doute des disciples, de ce que les disciples lui rapportent sur Jésus. Il ne veut pas croire. Il ne veut pas croire ce que les disciples ont vu sans lui. Il prend une position d'incrédule. Il prend une position de « je ne veux pas croire ». Et quelque part, on peut se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi il ne veut pas croire ? Est-ce qu'il voulait chercher lui aussi à avoir une expérience personnelle avec Dieu ? Il était en recherche, comme Pierre et puis ce deuxième apôtre, comme Marie, comme ses disciples qui venaient de rencontrer Jésus personnellement. Il s'est dit, mais si moi aussi en fait, je veux croire, mais je veux voir, je veux le voir pour croire. Et lorsque Jésus apparaît, 8 jours plus tard, ce qui est assez intéressant, parce que dans le texte, au verset 28, verset 26, il marque 8 jours plus tard. 8 jours plus tard, c'est-à-dire que 8 jours auparavant, Jésus est apparu aux disciples. Il les envoie, il leur dit que la paix soit avec vous déjà, il leur dit d'aller et d'être témoins. Mais 8 jours plus tard, tous les disciples se retrouvent toujours enfermés dans une maison, et avec cette peur qui est sous-entendue, qui est toujours là, peur des Juifs. Et Jésus revient vers eux. Et ce que je trouve fort avec ce passage, c'est que lorsque Jésus revient, il ne revient pas avec un jugement, il ne revient pas avec une condamnation, que ce soit pour les disciples ou pour Thomas qui est en train de douter ou qui a pris une position d'incrédule. Non, Jésus revient et la première chose qu'il dit, c'est « paix avec vous ». Jésus arrive dans nos endroits clos, les endroits fermés, les endroits où on est seul, où on a peur, où on s'est enfermé pour se protéger, dans nos angoisses les plus profondes. Dans les moments d'anxiété, même dans les moments de doute, Jésus vient au milieu, il vient et dépasse ses portes et il veut nous apporter sa paix. Il veut nous apporter la paix dans les moments turbulents, dans les moments où finalement ses disciples se sont confinés pour se protéger. Mais ils étaient dans un moment troublé et Dieu leur apporte la paix. La paix, c'est-à-dire la réconciliation avec Dieu. C'est la paix que Dieu nous donne. C'est une paix que Dieu veut nous donner. Et lors de la première apparition, sur les versets juste avant, Dieu leur donne, on voit aussi un autre effet de Jésus sur ses disciples, c'est que leur peur devient de la joie. Ce qui nous montre qu'en Christ aujourd'hui, alors qu'on peut être aussi confiné, alors qu'on peut être aussi dans le doute, la paix et la joie de Dieu, la paix et la joie de Jésus, elle est là, elle est pour nous. On peut la vivre. Alors, ça va être une paix et une joie qui n'est pas des émotions comme on peut l'imaginer, comme on peut encore les vivre, comme on les a vécues, mais il y a une paix et une joie qui résident en nous, parce qu'elle est attachée au fait que Jésus est vivant. Au fait que Jésus, lorsque Jésus apparaît, il se tient debout. Et cette idée de se tenir debout dans le texte, ça veut dire qu'il a vaincu la mort. Parce que quand il était mort, il était couché. Et il y a vraiment cette précision de debout, vainqueur de la mort. Et c'est pour ça que lorsqu'il nous rejoint dans ces endroits fermés, il n'est pas là pour juste nous tenir la main et nous dire « ça va aller, mais il ne peut pas, il ne fait rien ». Non, il vient là comme Seigneur et Dieu. Il vient là comme Jésus divin qui a tout pouvoir, toute capacité. Et je me dis, Thomas, lorsqu'il voit Jésus, il y a un déclic dans sa tête. Il réalise l'incrédulité, il réalise qu'il s'est mis en position où il ne voulait pas croire. Il réalise que qu'il voit Jésus, mais que Jésus n'est plus seulement le Messie, j'allais dire, je veux dire, mais que Jésus est Dieu. Et c'est le premier dans tout l'évangile de Jean à déclarer « Mon Seigneur et mon Dieu ». D'autres ont déclaré « C'est le Seigneur » ou « C'est le Messie ». Mais c'est le premier à dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il y a une conversion, il y a un impact si profond, Thomas, de qui est Jésus. Parce que Jésus l'a rejoint dans ce qu'il vivait, dans ses doutes, dans ses questions, dans son incrédulité. Jésus lui a proposé de venir toucher. Le texte ne nous montre pas que Thomas est allé jusqu'à toucher. Bien au contraire, au verset 29, quand Jésus dit « Parce que tu m'as vu », c'est-à-dire que Thomas, à la simple vision de Jésus, il a cru. Il n'a pas eu besoin de toucher, il n'a pas eu besoin d'aller jusque-là. Sinon, il aurait dit « Parce que tu m'as touché, tu crois ». Non, c'est parce que tu m'as vu que tu crois. Donc, on voit un Thomas qui cherche. On voit un Thomas qui plie le genou devant Dieu et qui, finalement, le doute ou l'incrédulité de Thomas l'a poussé à déclarer Dieu comme Seigneur, Jésus comme Seigneur et Dieu. Et je crois que nos doutes, ce qu'on vit, le bon doute qu'on peut vivre, les bons questionnements dans nos vies, auront toujours un résultat. Ça sera de nous pousser à déclarer que Jésus est notre Seigneur et notre Dieu. Ces doutes qui nous fortifient, ces doutes qui nous amèneront toujours plus proche de son cœur. Une chose qui est aussi très importante dans ce passage, c'est que Thomas doute, Thomas explique, Thomas n'est pas d'accord avec la vision des autres disciples. On pourrait voir un conflit, on peut voir quelque chose là, entre les disciples. Mais Thomas reste avec eux. Pendant 8 jours, il est en communion avec ses frères et sœurs. Et on peut voir ça. C'est que Thomas, même le fait qu'il doute ou qu'il n'est pas d'accord, il reste en communauté, il reste connecté. Et on reste ensemble, même dans le doute. Et cette communauté porte Thomas dans son doute, porte Thomas dans ses questionnements. Et ce que Thomas nous apprend en restant en communauté, c'est que malgré les doutes, malgré tout ça, on voit qu'il y a un lien qui est bien plus fort que le doute entre eux. C'est l'amour qu'ils ont entre eux. C'est l'amour qu'il a pour Jésus. Ce cœur qu'il a dans ces deux chapitres à suivre Jésus, à vouloir faire ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, cet amour est plus fort que le doute. Donc, notre amour qu'on peut avoir les uns pour les autres, l'amour qu'on peut donner aux gens, sera toujours plus fort que le questionnement et le doute qui peut résider en nous. Et ce matin, je veux simplement terminer en déclarant la même chose que Thomas. Je vous invite à le déclarer avec moi, que Dieu, que Jésus est mon Dieu et mon Sauveur. Mon Dieu et mon Sauveur sur ces circonstances, dans ces temps troublés, dans ces temps difficiles. Je vous invite, et j'aimerais conclure en disant, mais quelle est la vision, comment vous voyez ce Jésus ? Est-ce que vous le voyez et vous croyez en un Jésus divin, Seigneur, puissant, qui peut changer les choses ? Ou en ce Jésus qui a été simplement un bon maître et qu'on reçoit ou on peut tirer certaines valeurs de lui ? Parce que la vision qu'on aura de Jésus changera notre réalité, changera ce qu'on peut vivre dans ces périodes difficiles, dans ces périodes de doute. Je vais simplement terminer par la prière. Et suite à ma prière, on prendra un dernier chant, « Mon encre et ma voile ». Et par ce chant aussi, on peut prendre ce temps pour chanter et déclarer que Jésus est cette voile qui nous guide, cette encre qui nous assure dans la vie. Et je vous propose, après ma prière, de prendre ce chant comme un temps de consécration, comme un temps où on peut se recentrer sur Jésus. Mais Seigneur, je te remets nos vies, je te remets nos situations, nos doutes, nos incertitudes. Et je te prie, Seigneur, que dans notre vie, dans nos doutes, qu'on puisse encore et toujours déclarer et qui tu es. Déclarer que tu es mon Dieu et notre Sauveur, même dans ces périodes de doute, même dans ces périodes de questionnement. Tu es notre Dieu et notre Sauveur. Et merci Seigneur parce que tu es là avec nous et que tu nous apportes ta paix et ta joie. Merci Seigneur pour tout ce que tu veux faire encore avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen.